Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse.
Les camarades montants s'ignoraient. Couple politique.
C'est une grande maison, bien confortable, bien chauffée. C'est autant une maison d'hiver qu'une maison d'été. C'est la maison où, par exemple, Montand a toujours préparé ses récitals, où il y a plein de copains qui ont écrit des livres, des scénarios. C'est une maison de travail, énormément. Une maison qui est bien tenue, qui roule, parce que il y a Marcel et Georges qui vivent avec nous depuis 35 ans et qui la font marcher, la maison.
Auteuil acheté en 1954 dans l'Eure, 2 ans plus tard, dans les derniers jours de 1956. En dépit de la répression de la révolution hongroise par l'armée rouge, Montand et Signoret s'étaient résolus à partir pour une longue tournée, décidée de longue date, dans les pays de l'Est. À l'issue du premier récital en présence des officiels, Khrouchtchev, l'homme fort du Kremlin, avait retenu le couple pour une nuit de discussion et de libation que Simone raconta dans un morceau de bravoure de son livre « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Autour de la table, on évoqua la réalité des camps en URSS, les faux-semblants des démocraties populaires et à un moment, Montand dit « Mais nous deux, on vit bien à l'Ouest, on a un appartement à Paris, la roulotte, et à la campagne, une belle maison ». Dans la conversation du couple, Auteuil n'était jamais loin. José Arthur, qui en fut un habitué, disait « C'est une maison où s'il pleut, c'est dehors. Et si on la cambriolait, ajoutait-il, on y volerait plus de souvenirs que d'objets de valeur. » Le jour est venu cependant, 32 ans après la mort de Simone, à Auteuil précisément, de la dispersion. Pêle-mêle, on vend les colifichets rapportés d'Urs en 56 et 57, la lettre de félicitations de Tito, après la parution de la nostalgie, donc d'un côté les Saint-Sulpicerie orthodoxes et de l'autre l'autographe du traite yougoslave, d'un côté le dossier d'une chanson, Paris-Moscou, que le député communiste Florimond Bonte lui avait écrite et qui s'appelait Paris-Moscou, et de l'autre les témoignages de l'amitié avec Georges Samprin et Arthur London qui les libérèrent des liens avec le parti. On n'imagine plus aujourd'hui l'importance qu'eut le couple dans l'imaginaire des Français. Sa mutation politique dans les années 1970-1980 accompagna et accéléra le dégel des idéologies dominantes de gauche et de droite, dégel dont on dit aujourd'hui qu'il est une débâcle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Patrick Rottmann, bonjour.
Bonjour.
En compagnie d'Hervé Hamon, vous avez en 1988 commencé une biographie de Montand qui intégrait une autobiographie que devant vous faisait Montand. À l'époque, pour dire l'importance du personnage comme de Simone, votre livre s'est vendu à...
Je sais plus, 200-300 000 exemplaires.
Et la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, encore davantage.
Sûrement.
D'ailleurs, si Simone avait été encore là, vous la connaissiez un peu, mais vous aurez scruté de haut en bas, radiographié jusqu'aux os, et je sais pas si elle aurait accepté aussi facilement que Montand la biographie.
Je sais pas, elle l'a jamais faite. Nous, on avait passé une sorte d'accord avec Montand, c'est que il nous racontait tout, on écrivait absolument librement, et voilà. Donc, il contrat qu'il a totalement respecté, même d'ailleurs quand ça lui déplaisait. Mais ce qu'il y avait, c'est que Montand avait ce langage particulier qu'il avait, et on avait gardé des morceaux comme ça qui sont en italique dans le livre où il s'exprime sur les moments les plus graves, les plus forts, les plus émouvants de sa vie.
On entendra Signoret, que Signoret, une langue très précise, n'étonne pas, vu sa formation. Mais de Montand, vous dites que sorti de l'école à 11 ans, il savait à peine écrire quand il avait 15-20 ans. 4 mots étaient très difficiles pour lui.
Oui, on comprend rien à Montand si on comprend pas d'où il sort, c'est-à-dire de la misère. C'est-à-dire d'une famille d'immigrés italiens venus s'échouer à Marseille, dans un quartier nommé Les Crottes, plus tard la Cabucelle, dans lequel la famille Montand a vécu dans une extraordinaire misère. Et il s'est échappé de ça, ce qui fait que son destin est aussi intéressant. Il l'avait effectivement, quand la famille a été au bord de de la ruine. Il est parti à 11 ans travailler en usine. Il a quitté l'école très très tôt, l'école à laquelle il n'était pas très assidu. Et ce qui fait qu'il a eu toute sa vie un complexe énorme vis-à-vis des écrivains, des intellectuels, enfin, des artistes qu'il a fréquentés d'ailleurs.
Cependant, quand le premier amour de sa vie, Édith Piaf, le rejoint, il la présente à la famille, au père, militant communiste, exilé depuis les années 20, depuis l'époque du fascisme, au frère, Julien, militant syndicaliste à la CGT, bien sûr, extrêmement assidu, et il fait de même quand Simone Signoret se présente. Ils se sont rencontrés, on le sait, en 1949, mariés en 1951.
Et avec Montand, c'est la première fois que j'ai pénétré, si étonnant que ça paraisse, parce qu'il était la plus grosse vedette de music hall quand je l'ai rencontré. Il était pas encore ce qu'il est en tant qu'acteur au théâtre, au cinéma. Il était vraiment le chanteur populaire et en même temps, c'est lui qui m'a introduit dans ce qu'on appelle quelquefois très étourdiment la classe ouvrière, parce qu'il sort d'une famille d'ouvriers émigrants et que j'ai rencontré à la table familiale de ma future belle-mère et de mon futur beau-père, puisque j'étais la fiancée, qu'on venait présenter à sa famille à Marseille, à la Cabucelle. J'ai rencontré des gens qui tous, à un moment donné de leur vie ou à un autre, avaient travaillé dans des usines. Alors moi, les usines, j'en parlais, comme tous les gens qui ont lu les beaux livres, puis qui fréquentent certains milieux dits d'intellectuels de gauche, mais je n'ai jamais fait un jour de ma vie à une chaîne quelconque, mais je n'ai pas jamais vécu cette vie-là. Alors là, je me suis trouvé tout d'un coup avec les voisins, les gens du quartier qui venaient voir la fiancée, comment, quelle tête elle avait, si elle était comme au cinéma. Et ces gens, j'ai appris beaucoup de choses dont je parlais très légèrement, croyant être encore une fois très intelligente, mais je me suis trouvée devant un monde qui effectivement m'a fait faire un chemin.
Ne pas parler trop légèrement de la classe ouvrière ou de ce qu'on appelle étourdiment la classe ouvrière et faites très attention aux mots, Simone Signoret. Mais là, la situation était quasi inversée, c'était elle qui passait un examen de passage.
Je ne sais pas si c'était un examen de passage, mais par son histoire personnelle, Simone Signoret, c'était une artiste qui avait beaucoup fréquenté le Fleur, la bande de Prévert, qui était une intello, en quelque sorte. Et Montand, c'est un pur prolo. Dire à la Libération, on l'appelait le prolo chantant. Et donc là, elle arrive dans ce quartier dont je parlais tout à l'heure, la Cabucelle, où il y a une très grande misère. C'est un quartier d'immigrés, les Italiens, il y a les Arméniens, enfin il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'elle découvre en fait, c'est que la famille Livy, c'est une sorte de rempart contre, de garde-fou contre la misère, d'où une solidarité extrême, cette solidarité ouvrière, cette culture ouvrière qui a aujourd'hui disparu et dans laquelle baignait cette famille. Le père, militant communiste italien, et le frère Julien, vous l'avez dit, qui était aussi, lui, dans l'appareil de la CGT, un responsable communiste et qui défendait une très grande orthodoxie stalinienne, on peut le dire, à l'époque.
Mais qui était constituée autour de la mythologie ou de l'image réelle, le souvenir de l'assimilation du communisme et de la résistance. Elle avait un complexe, Simone. Elle répétait sans cesse, avec sincérité, « je n'ai pas fait de résistance ». Et Yves, à la différence de son père, n'a pas fait de résistance non plus. Vous racontez que le père militant communiste italien clandestin s'était gardé, d'ailleurs, d'inscrire dans son sillage son fils, comme si le fils n'était pas suffisamment militant ou qu'il avait d'autres horizons.
Oui, le père effectivement faisait de la résistance, se servait d'une pièce de cette maison de la Cabucelle, impasse des Mûriers, pour planquer des clandestins. Et Montand n'était absolument au courant de rien. Mais faut comprendre que Montand commence à partir de 41-42 à une carrière de chanteur. Il va devenir une sorte. Et il ne pense qu'à ça. Il est très jeune, il est très très étourdi. Moi, je me souviens beaucoup plus tard, il me disait tout le temps qu'il était complètement passé à côté. Évidemment la résistance, mais aussi passer à côté de ce que ça a été la répression contre les Juifs. Il n'y comprenait rien. Donc il va trimballer cette mauvaise conscience d'être passé à côté pendant toute sa vie, en fait.
Alors, phénomène de compensation, à partir des années 1950, il se fiancie ils se fiancent, pardon, l'un et l'autre, avec le Parti communiste. Le public est même persuadé qu'ils sont mariés avec le Parti communiste, alors qu'ils n'en sont pas officiellement membres. Ils pétitionnent. Yves Montand ne va jamais chanter cependant à la fête de l'humanité, mais Georges Sorien, militant communiste orthodoxe, lui a concocté une très longue tournée qui doit commencer fin 1956, pas de chance. L'insurrection, la révolution hongroise sont matées dans le sang par l'armée rouge. Alors faut-il partir? Finalement, Montand et Signoret décident de partir.
Il se trouve que dans cette affaire-là, nous avons été, lui et moi, enfin lui surtout et moi par conjugalisme, dans une situation abominable. Ça m'a mis 20 ans avant de le raconter, alors quand on revient 5 mois après, parce qu'on a fait tous les pays de l'Est, on reste chez soi, on parle avec ses copains, on parle avec sa famille, et on ne donne pas de... Enfin, en tout cas, on n'a pas donné de fracassantes déclarations, parce que dans la même journée, il y a eu 2 sollicitations à notre tour. Il y a eu le journal L'Humanité qui voulait un long récit, et puis le journal Match qui voulait aussi un long récit. Et on n'a pas donné de long récit au journal L'Humanité, et on n'a pas donné de long récit au journal Match non plus. Le journal Match avait demandé qu'on dise quelques mots contre le Parti communiste français, on les a foutus à la porte. Et puis on s'est tus, on n'a rien dit du tout, on a parlé avec nos copains.
Si vous le voulez bien, aujourd'hui, nous ne parlerons que de votre métier.
Je crois quand même que je vais vous parler de la tournée que j'ai faite dans les pays de l'Est.
On avait dit qu'on évoquerait que votre métier.
Justement, c'est ce que je fais. Dans mes chansons, je parle beaucoup des autres. Je veux dire par là, des gens qui travaillent, des gens qui font quelque chose, des gens qui vivent, des gens qui ont de la difficulté à vivre, parce qu'on vit dans un monde très dur, très difficile. Je crois dans un monde meilleur, absolument. Mais je pense que ce monde sera ce que nous tous, ensemble, le ferons, en ferons. Et ça m'intéressait d'aller voir. Si s'intéresser à ses contemporains, c'est faire de la politique, alors d'accord, je fais de la politique.
Léger décalage dans ses archives, c'est normal, c'est le temps qui passe. Tardivement, Signoret dit non, on n'a pas parlé. À François Chalais, Yves Montand a fait cette déclaration dès octobre 57, c'est-à-dire peu de mois après le retour. Alors, où en étiez-vous dans votre enquête quand vous avez écrit ce livre avec Hervé Hamon, Patrick Rothman, sur le voyage?
Il se trouve que bien longtemps après, je suis allé avec Montand à Moscou et que... On est retourné dans ce théâtre où il avait chanté et où il y avait eu lieu ce fameux dîner. Et Montand a cherché dans les coulisses, dans les salles, etc. Et il a retrouvé là où il y a eu ce dîner incroyable, où en fait Montand, parce que c'est surtout lui qui avait parlé au cours de ce dîner, et j'en ai eu la confirmation par l'interprète que j'avais retrouvé à Moscou, qui s'appelait Nadia, et qui racontait à quel point il avait été vindicatif face à Khrouchtchev. Sans doute, il voulait lui faire payer le fait qu'il, finalement, il était venu faire ce voyage après avoir beaucoup hésité, avec un déchirement incroyable, pris en fait entre son frère Julien, communiste, qui lui disait « faut y aller », et Simone, qui ne voulait absolument pas que Montand aille à Moscou. Donc, il y avait un déchirement familial en plus du déchirement politique. Et au cours de ce dîner avec Khrouchtchev, on peut dire que les choses ont été mises sur la table avec une certaine brutalité de sa part. Finalement, ce voyage, pour Montand, ça a été un déniaisement. Avant, il était un croyant, d'une certaine manière. Il n'a jamais été, ni Simone non plus, ils n'ont jamais été membres du Parti communiste. C'était des compagnons de route, ils vont devenir des compagnons de doute, en fait.
Oui, mais quand même, dans ce dîner, à la fin, au moment des libations et des toasts, Khrouchtchev dit à Montand, parce que le dialogue a lieu surtout entre deux, au fond, vous n'êtes qu'un sentimental. Et Montand lui répond, bah oui, mais on est là pour des raisons de cœur.
Oui, mais c'est vrai, c'est-à-dire que Montand et Simone, je pense Montand était des affectifs, son attachement à la cause du communisme. C'est un attachement à une cause généreuse, à une cause de, d'émancipation qui lui venait encore une fois de là où de ses origines, de cette fraternité communiste qu'il avait connue dans ce quartier, de sa famille, de son père auquel il vouait une vénération absolue et avec lequel il ne voulait pas rompre. Donc c'était un côté totalement sentimental, affectif. Montand était tout sauf un théoricien, tout sauf un type qui était capable de faire des analyses politiques. Il fonctionnait à l'instinct et là il avait effectivement après ce voyage il a changé.
C'est-à-dire que la générosité de ses intentions a été touchée par les observations qu'il faisait en Hongrie, c'est plus encore dans les pays de l'Est, en Pologne et à Budapest, où il est allé peu de mois, donc peu de semaines, même presque après l'intervention soviétique. Alors il se targuait d'avoir chanté par exemple devant les étudiants de Moscou des chansons qui étaient mal vues parce qu'elles étaient trop jazz, comme celle-ci.
Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie Vison. Mais un soir ce fut plus fort qu'elle, la v'là qui s'est mise à pleurer. Et son secret trop lourd pour elle, dans un bistrot, me l'a confié. Elle n'a jamais cherché un petit cœur à aimer. Elle n'a choisi que des ballots au cœur d'artichaut. À jouer de la prunelle, de Passy à Grenelle. On perd son temps et ses 20 ans, v'là qu'il fiche le camp pour ce sacré manteau qu'elle voulait sur son dos. Elle a foutu au clou ses rêves de gosse et ce sacré manteau qu'elle a toujours sur le dos. Ça l'a mené à la chapelle dans mon quartier. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie Vison. Vous les jouvencelles, ne faites pas comme elle. S'aimer d'amour, c'est ça qui est bon, sacré nom de nom. Mais oui.
La marche de l'histoire, France Inter. Jean Lebrun.
Le couple politique Montand-Signoret à l'instant où commence à Drouot, sous le marteau de la maison d'Igard, la vente des objets d'Auteuil, la maison de campagne de Montand et Signoret, dans l'Eure, à 90 kilomètres de Paris. La Marie Vison reprochait à Simone Signoret, à droite, d'avoir un manteau de Vison, et puis à Montand, d'avoir une Bentley. Mais on fonctionne par décennies avec vous, Patrick Rothman, qui avait publié, c'est dans la collection Point maintenant, un livre sur Yves Montand. 1968, ils sont un peu silencieux, l'un et l'autre, mais Montand va produire un texte assez dur vis-à-vis de la CGT de Georges Segui, alors que son frère, Julien, qui habite 3 étages au-dessus de lui, Place Dauphine, oui. Et maintenant secrétaire d'une fédération de la CGT.
56, ça avait été l'éloignement, mais sans rupture. 68, c'est la rupture avec la famille communiste et avec la famille tout court. Montand, au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du pacte de Varsovie, l'armée rouge, est invité à la radio, et là, il fait une déclaration extrêmement violente contre ce qui se passe à Prague. Et au passage...
Donc il a été silencieux sur mai, mais août 68, oui. Il a pris position. C'était rare, d'ailleurs, les gens qui...
Oui, parce que sur mai, il estimait qu'il était trop vieux pour être dans le coup et que c'était un peu ridicule qu'il aille donner des leçons ou chanter. Là, ça le touche au cœur, cette intervention à Prague, parce que comme beaucoup de gens, il a cru à une évolution de ce socialisme à visage humain qui s'écrase sous les chars des chenilles des chars soviétiques. Donc il fait une déclaration extrêmement violente. Son frère, Julien, qui arrive dans les minutes qui suivent, et il s'engueule avec une violence incroyable, tout y passe.
Et le soir à l'Olympia, Montand est à fond.
Il pète sa voix, donc il ne peut plus chanter. Il explique aux spectateurs qu'il ne peut plus chanter. Et donc c'est la rupture entre les deux frères, la famille, Julien, etc. Vivaient Place Dauphine avec la Montand. Ils avaient recréé cette communauté italienne.
La belle-sœur tenait le ménage.
Voilà, Elvire. Et puis, là-dessus... survient la mort du père. Donc, entre Julien et Montand, entre les deux frères, il va y avoir une énorme querelle d'héritage. Qui est fidèle au père, vieux communiste, celui qui maintient, quoi qu'il arrive, la ligne, ou celui qui va devenir de plus en plus critique, comme une sorte de sismographe de ces millions de Français qui ont cru au communisme et qui vont s'en éloigner.
Alors, quand on parle du couple Montand-Signoret, il faut parler du duo Yves-Julien-Livy. Il faut aussi parler, dans ces alénades, de l'importance que prend Semprin. Il y a un duo... Semprin, ancien dirigeant communiste espagnol clandestin, qui libère écrivain. Les amarres, grand écrivain, scénariste, et Yves Montand.
Oui, la rencontre avec Georges Semprin est une des rencontres décisives de la vie de Montand. Et Semprin, qui évolue lui-même du communisme à la critique du communisme, va avoir une grande influence sur l'évolution de Montand tout au long des années 60. Et tout ça va déboucher sur le scénario de l'aveu, donc le film tourné par Costa Gavras, d'après les souvenirs d'Arthur Landon, qui est une des victimes du procès de Prague, du procès de 1952, le procès Slansky.
Alors Arthur Landon a été vice-ministre des Affaires étrangères du régime communiste de Prague, arrêté. Il avait auparavant été déporté pour résistance et il avait épousé une fille d'un grand dirigeant communiste français, Raymond Guyot. Et ça donne ceci à l'écran. La femme de Gérard, surnom d'Arthur Landon, pseudonyme d'Arthur Landon, c'est Simone Signoret. Et voici le moment où la police politique tchécoslovaque pénètre dans l'appartement du vice-ministre qui va être déchu.
Est-ce que vous avez vu Gérard cet après-midi? Il n'est pas passé. Zabotsky est là. Ah bon, merci, excusez-moi.
Perquisition.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non! Là-haut, il y a des enfants qui dorment. Qu'est-ce que ça signifie?
Madame, nous avons l'ordre de perquisitionner.
Perquisitionner? Moi, j'ai une ligne directe avec le comité central. Nous allons appeler le secrétaire général. Nous verrons bien ce qu'il a à en dire. Vous avez un mandat?
Pas besoin de mandat. Je vous ai déjà dit, madame, que nous avons l'ordre de perquisitionner.
Et moi, je vous dis que je ne vous laisserai pas perquisitionner sans un mandat. C'est mon fils aîné. Il est né en prison, en France, à La Roquette. C'est une prison à Paris.
Et pourquoi vous avez été en prison?
Parce qu'en 1942, les Allemands mettaient les communistes en prison. J'étais condamnée à mort, mais j'ai pas été exécutée parce que j'étais enceinte.
Vous avez été longtemps en prison?
Non, j'étais déportée à Ravensbrück. Mon fils est le plus jeune prisonnier politique de France. Mon mari lui a été envoyé à Mauthausen. NN, nuit brouillard. Vous connaissez? Ça sont des photos de mon mari pendant la guerre d'Espagne. Et puis en France pendant la résistance. Non! Vous conduisez comme les nazis!
Pas facile pour Simone de tourner cette scène parce que elle a connu le personnage qu'elle incarne, mais elle l'a négligé lors d'un passage à Prague.
Oui, elle a connu le court ce fameux voyage, mais surtout, Simone n'arrivait pas à endosser le personnage de Lise Landon, parce que Lise Landon, quand il y a eu son mari est arrêté, elle l'a désavoué, elle l'a dénoncé. Or, Simone ne pouvait pas supporter cette idée. Qu'elle puisse dénoncer son mari. Donc,
si elle l'a dénoncé, c'est après que la scène qu'on a entendue s'est déroulée, elle a été convaincue par les aveux qu'Arthur Landon avait
oui,
été contraint
évidemment,
à passer. Et quant à Yves, très difficile de jouer Landon. Alors vous décrivez longuement le tournage qui a eu lieu dans le Vieux-Lille, qui n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui. Et il s'est astreint à une assaise, il a maigri, il a accepté les coups, les menottes, comme s'il avait
quelque chose à payer,
oui,
une rédemption à accomplir.
Le film, c'est une forme d'expiation. Quand il y a eu le procès Landon en 1952, il y a un journaliste du Figaro qui appelle Montand pour lui demander ce qu'il en pense, parce qu'à l'époque, il pétitionnait pour les Rosenberg, etc. Et Montand lui répond par cette fameuse phrase de Paul Éluard, « J'ai trop à faire avec les innocents qui clament leur innocence pour m'occuper des coupables qui clament leur culpabilité. » Il se trouve que là, les coupables qui clamaient leur culpabilité dans des aveux extorqués étaient en fait innocents. Et ça, cette phrase, il a voulu la payer effectivement. Le tournage a été dantesque pour lui. Il a cru revivre en fait le personnage de Landon. Il dormait par terre, il avait des menottes dans le dos, il demandait à ce qu'on le tabasse assez durement, etc. C'était une forme d'expiation de ce à quoi il avait cru pendant toute une partie de sa vie, dû au fait qu'il sortait d'une famille communiste ouvrière et avec lequel il rompait dans une douleur personnelle inouïe.
Et après, c'est la conversion jusqu'à une ardeur extrême. Alors, on n'a pas le temps de dire combien le rôle de Montand dans le domaine du cinéma s'est accru dans ces années 70-80, pendant que Simone vieillissait autrement, écrivait « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Mais autour de 1980, il est devenu un phénomène avec le 7 sur 7, avec Vive la crise, avec Demain la guerre, et puis précédemment un dossier de l'écran où il a parlé politique devant 10 millions de téléspectateurs. J'aimerais que vous nous expliquiez le sens de cette phrase que vous utilisez pour peindre le phénomène Montand. La frontière commence à se brouiller entre la comédie du pouvoir et le pouvoir de la comédie à cette époque-là.
Bah oui, puisque Montand était un comédien, un artiste, un chanteur, et dans ces années, il est devenu autre chose. Il est devenu une espèce de symbole de ces millions de gens dont je parlais tout à l'heure, qui avaient cru au matin et qui voyaient que tout ça avait débouché sur des erreurs, sur un système totalitaire. Et avec la rage qui le caractérisait, il le dénonçait. Mais pris dans un engrenage qui a été celui, vous parliez de cette émission Les Dossiers de l'Écran, à minuit, il y avait 10 millions de personnes qui regardaient Montand parler politique. On n'imagine pas, il y avait 14 couvertures de magazines. Le phénomène absolument énorme que ça a été, il faut dire, ça lui a légèrement monté à la tête. Il a cru un moment que peut-être il pouvait avoir un rôle dans ce jeu, dans cette comédie du pouvoir.
Vous avez republié chez Point le livre sur Montand avec Hervé Hamon, et puis republié chez Point aussi un livre, un roman composé autour de Mitterrand. Mitterrand, à ce moment-là, l'invite à l'Élysée. Il vient pour la première fois. Mitterrand le met en face entre présidents. C'est normal. Merci à vous, Patrick Rothman. On attend aussi de vous une BD à l'automne, octobre 1917. L'émission était préparée par Elinka Negulesco, réalisée par Valérie Aestaray avec Ludovic Asselot. Très vite, cher Mathieu.
Eh bien, nous allons parler de la génétique des populations dans la tête au carré, Jean, voilà.
Dans un instant.